Demain, de nouveaux terribles attentats en Belgique. On va évidemment commencer l'émission par ça, ça serait compliqué de ne pas en parler. Et puis comme d'habitude, on évoquera trois sujets. On commencera à parler de la fameuse loi El Khomri qui a fait descendre quelques lycéens et lycéennes et quelques jeunes étudiants dans la rue. Est-ce que c'est légitime de s'inquiéter pour son avenir ou est-ce que, comme certains adultes vous le disent parfois, chères chroniqueuses et chers chroniqueurs, eh bien c'est travail d'abord et puis on fait la grève ensuite quand tu auras commencé à travailler. Dans un deuxième temps, on s'intéressera... Il y a un son très bizarre, du chien. J'espère pas pour ceux qui nous écoutent. Vous n'avez pas un écho dans les casques?
Moi, j'ai un petit...
Tout va bien, sinon.
Tout va bien?
J'ai un petit bruit métallique.
Alors, on est à l'antenne. Merci, Louis, de ton aide. Mais c'est normal qu'on ait ce bruit de fond, là? J'espère que les oreilles de nos auditeurs...
Moi, j'ai rien.
Bon, j'entends comme un bruit de fond. Mais oui, c'est bon, peut-être mes oreilles qui bourdonnent, non? Qui est-elle aussi? Bon, je vais présenter tout le monde dans deux minutes. Donc, en deuxième sujet, on s'intéressera aux migrants, mais plus particulièrement aux migrants qui ont votre âge. Avoir 17 ans dans la jungle de Calais, qu'est-ce que ça signifie? Puisqu'on aurait à peu près 200-300 jeunes gens mineurs qui sont un peu livrés à eux-mêmes dans la fameuse jungle de Calais, comme on l'a baptisé. Est-ce qu'il faut autoriser exceptionnellement au moins ces mineurs à aller jusqu'en Angleterre pour avoir de meilleures conditions de vie? C'est la question qu'on se posera. Et puis, enfin, l'appel de ces 130 médecins qui, il y a quelques jours, ont fait une tribune libre dans les journaux et qui ont expliqué qu'ils étaient hors la loi et qu'ils l'assumaient depuis quelques années déjà en accordant à des femmes seules ou des femmes en couple homosexuelles à les aider à avoir un enfant, la PMA, la procréation médicalement assistée. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'ils ont raison d'enfreindre la loi parce qu'ils considèrent que la France est en retard et que la vie privée de ces femmes ne les regarde pas? Ils sont là pour les aider médicalement parlant. Il suffit de franchir la frontière espagnole, par exemple, pour avoir accès à la PMA. Voilà, c'est beaucoup mieux pour le son. Merci, Lucien et Mathieu. Et donc, c'est la question qu'on posera également à nos chroniqueuses et à nos chroniqueurs. Je les présente rapidement. Vous avez donc entendu, reconnu par ma voix à l'instant, que Lucien et Mathieu étaient fidèles au poste, et en particulier derrière les manettes. Et ils sont en train de nous rectifier le son pour qu'il soit parfait, pour votre confort, chères auditrices et chers auditeurs, et pour le nôtre aussi, dans nos casques magiques de Radio Diwa sur 107.5. Je vais commencer de suite par donner le numéro du standard, qui est le 0952 368 531, puisqu'on me dit que je ne le donne pas assez souvent. 0952 368 531, appelez-nous, nous sommes en direct jusqu'à 13h, 13h10. Si quelqu'un peut me trouver là où est relié mon fil, ça m'arrangerait que vous me baissiez un peu le son, parce que je vais perdre mes oreilles d'ici 13h10, je vous remercie. Nous avons également le jeune Maxime, bonjour Maxime.
Bonjour.
Bonjour. Également le jeune Quentin.
Bonjour.
Ah, merci beaucoup Louise. Encore un, par contre tu peux le monter un tout petit peu, parce que cette fois-ci je ne vous entends plus du tout. Parfait, super, nickel. Noé, bonjour.
Bonjour à tous.
Nous avons également Thiadel.
Bonjour.
Donc, et puis le jeune Louis.
Salut.
Il nous a fait faux bon la semaine dernière, on s'en souvient. Si, la semaine dernière, le mois dernier plus exactement, mais il est de retour. Et puis, il y a trois semaines du coup à peine. Puisqu'on est un peu en décalé aujourd'hui, on a le jeune Jérémy. Bonjour Jérémy.
Salut, salut.
Et la jeune Louise, donc vous l'avez
Bonjour.
Entendu, qui m'a gentiment réglé
tout le temps.
En attention à mes oreilles. Pas tout le temps, mais ça n'est pas un reproche aujourd'hui, en tout cas c'était efficace. Et enfin, le jeune Alexandre. Bonjour Alexandre.
Bonjour à tous.
Donc j'ai oublié personne, je voyais quelqu'un qui se cachait derrière Lucien, mais je vous ai cité. Vous étiez à fond dans les manettes, c'est qu'à le dire, c'est pour ça. On redit bonjour aux deux techniciens orateurs, ils cumulent, intervenants aussi. Ça y est, Lucien a disparu, il est revenu de l'autre côté du micro. Il se passe des trucs dans le studio, on n'est pas content. Un jour, il faudra qu'on mette une caméra. Maintenant, les radios, c'est filmé de plus en plus. Enfin, bon, la voix, c'est pas mal non plus. Allez, on redevient un petit peu sérieux, puisqu'évidemment, il s'est passé ces terribles attentats avec plus d'une trentaine de morts en Belgique hier. Quelle réaction vous avez? Est-ce que vous pensiez qu'on était amené à reparler de ça après ce qui s'était passé en janvier en France? Est-ce que vous pensiez que... Comme beaucoup, on savait que ça allait arriver, mais où et quand, pas encore. Est-ce que, hélas, il risque d'y avoir des suites? Nous sommes tous solidaires des Belges. Évidemment, ils l'ont été à l'époque, pour nous aussi. Je t'écoute, Louise. Nous t'écoutons.
Moi, je l'ai su hier soir, parce qu'à l'internat, on n'a pas forcément... Enfin, on a les infos qui arrivent, mais peut-être un peu moins rapidement que tout le monde. Et j'ai regardé le journal de 20h d'hier, enfin, du 19-20h sur France 3. Et j'ai vu, et je savais pas parce que j'en avais entendu parler, et j'ai vu des images et tout, et c'était peut-être pas le même sentiment quand on les a eus à Paris, mais c'était quand même super fort, et ouais, voilà, je suis solidaire pour eux, mais c'était très dur, je pense, pour eux aussi, comme ça l'a été pour nous.
Ça te fait peur Tu t'y attendais?
Non,
beaucoup annonçaient qu'il pourrait y avoir une reproduction prochaine, mais où et quand, ouais. On ne savait pas, donc c'est ce que je disais.
Vu qu'on en avait emprisonné un, enfin pas emprisonné, enfin si, mais pris, chopé, enfin je sais pas comment on peut dire.
Arrêtez. Ah, Slam.
Ouais,
le
et
fameux.
Bah, et bah, du coup, ils l'ont fait, peut-être que ça a été une. Pas une. Comment on peut dire?
Une représaille.
Oui, mais une. Je trouve pas, je retrouverai, je le dirai.
D'après les observateurs, ce serait pas forcément des représailles, ça serait vraiment arrivé très vite, mais c'était prévu, ça a peut-être été juste un peu avancé, c'est ce que j'entendais ce matin sur les radios notamment. Tiedel,
est-ce qu'on m'entend? J'ai l'impression que mon...
On t'entend, toi, que je t'entends.
D'accord, parce que moi je ne m'entends pas.
Si. Bah, ça doit être une histoire de son, mais Louise,
bon.
Donc, qui est
d'accord. Non, mais
experte.
Là, c'est bon en fait. Voilà, parfait, merci. oui, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé hier à Bruxelles, on ne peut qu'être solidaire et bien sûr penser aux victimes et à leurs familles, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Oui, je pense qu'on pouvait s'attendre malheureusement à ce qu'il y ait d'autres attentats. On peut d'ailleurs toujours s'y attendre. Hein, c'est pas parce que la menace terroriste ne disparaît pas du jour au lendemain. Voilà, c'est sur le long terme que ça va peut-être s'atténuer.
Vous pensez, la question est difficile, mais que tous les moyens sont mis en œuvre, en tout cas c'est annoncé comme tel par les différents gouvernements, ou qu'on pourrait aller plus loin, comment
Oui, je...
Est-ce qu'on a les bonnes répliques? Apparemment non, pour l'instant, mais bon,
c'est difficile. Je pense qu'en France, notamment, des moyens importants sont mis en œuvre maintenant. Est-ce que ce sont les bons moyens? Et puis est-ce que c'est tous les moyens? Je ne sais pas, parce que quand on voit qu'il y a 10 000 soldats qui sont déployés sur le territoire français dans le cadre de l'opération Sentinelle, franchement, je ne vois pas l'intérêt que ça peut avoir en termes de sécurité de déployer des soldats sur le territoire français alors qu'ils pourraient être plus judicieux. Alors je dis ça, c'est un peu difficile de dire ça parce que bien sûr l'international et la géopolitique c'est très compliqué, mais alors que peut-être qu'on pourrait penser qu'il serait plus judicieux de les déployer en Syrie ou en Irak au cœur du problème, si j'ose dire.
Donc accentuer les frappes et éventuellement intervention terrestre.
Oui, voilà, parce que le problème des frappes c'est qu'on frappe des points stratégiques, mais après ça n'empêche pas les déplacements de se faire, l'endoctrinement, etc. Et puis il faudrait peut-être aussi une action plus sur le long terme par rapport en termes d'éducation, en termes de aussi de sécurité, mais pas forcément de sécurité liée au terrorisme, mais de sécurité dans les banlieues, dans des endroits.
Est-ce qu'on n'a pas un peu dépassé sensibles? Alors pour les futures générations, non, mais le stade de la prévention, malheureusement, on en est bien plus loin là. On en est largement
au-delà.
Je crois que c'est un peu tard pour ceux qui sont en train d'officier.
Oui, mais bien sûr, il faut aussi, c'est bien ce que je dis d'ailleurs. Il faut aussi faire face.
À l'urgence,
et je pense pas que ce soit en déployant des soldats sur le territoire français qu'on y fait face, parce que.
D'accord.
Et puis, mais quand même, il faut aussi prévoir l'avenir, je pense, et éviter que ça puisse se reproduire indéfiniment.
Lucien et Louise.
Je pense à peu près comme Tiedel.
Si le technicien se met à se racler dans la gorge dans le micro maintenant, alors.
Excusez-moi.
On t'excuse.
Je penserais à peu près comme Tiedel, ouais, que. Il n'y a pas forcément une très grande utilité à déployer beaucoup de soldats en France. Donc ça peut être utile dans certains points stratégiques, juste pour un peu de sécurité, mais c'est certainement dans des aéroports, des endroits où il pourrait y avoir beaucoup de personnes touchées, mais pas. On va dire qu'on ne peut pas pouvoir protéger toutes les petites villes, comme dit, toutes les grandes villes. Il y a des points qu'on peut protéger et d'autres lesquels on ne va pouvoir pas faire grand-chose. On a un pays de 60 millions d'habitants. À protéger avec une armée qui fait, je sais pas, je connais pas du tout les effectifs de l'armée aujourd'hui, mais je pense pas qu'on puisse protéger
Chaque citoyen, ça va être
difficile.
Et puis la façon dont ces gens-là opèrent, de toute façon, le problème il est là, c'est que c'est très rapide et que.
Je pense qu'aller à la source du problème, comme disait Tiedel, c'est une bonne idée, pouvoir arriver à changer pas forcément les mentalités, mais essayer de faire en sorte qu'on puisse pas reproduire de nouveaux terroristes dans des pays comme l'Irak. Et tous ces pays qui sont subsahariens, et essayer de pouvoir donner, je sais pas, des capitaux pour pouvoir avoir une meilleure instruction et pouvoir leur permettre une indépendance, mais plus vers quelque chose de démocratique et qui puisse fonctionner sans l'aide du terrorisme, quoi.
D'accord, merci.
Essayer
Lucien.
Arrêter d'enfoncer ces pays-là.
Merci Lucien. Louise,
J'avais vu hier sur un reportage que il y a eu beaucoup de moyens de sécurité après les attentats de Bruxelles qui ont été déployés. Mais il y avait beaucoup de personnes interviewées qui ne se sentaient pas en sécurité justement parce que ça arrive très vite et que même si on met beaucoup de soldats, ils ne peuvent pas tout déjouer. Et du coup, je trouve que c'est peut-être pas utile de mettre autant de personnes à surveiller, même si forcément ça sécurise un peu plus. Mais...
C'est peut-être plus au niveau des renseignements, en fait. Essayer justement étouffer dans l'œuf les attaques. Les empêcher.
Je pense que quand il y a des déploiements armés, quand on le voit maintenant, ça a surtout un effet psychologique, mais
moral,
un effet c'est vrai que par rapport aux vraies menaces, il vaudrait mieux avoir des services de renseignement qui fonctionnent, qui arrivent à s'échanger les informations entre les pays européens. On voit que c'est pas le cas. Quand on prend le cas de, par exemple, Mohamed Merah, ça fait déjà un peu longtemps, c'est en 2011 ou 2012, mais
à Toulouse.
Quand on prend ce cas-là, les Américains, les services de renseignement américains savaient que ce monsieur était parti en Afghanistan ou je ne sais où, et ça ne l'a pas empêché de commettre ces forfaits. Donc ça veut dire qu'il faudrait des services de renseignement plus efficaces dans la coopération,
qui avertissent plus,
Parce que en plus les services français le savaient, les Américains leur avaient dit, mais je sais pas, il y a eu des cafouillages, et c'est ça qu'il faut pouvoir éviter, parce que
peut-être qu'ils essayent aussi de coincer le plus de personnes possible et qu'ils n'envisagent pas que cette personne seulement, du moins, peut aller fusiller plusieurs personnes totalement.
Oui, c'est vrai.
Ils essayent peut-être d'essayer d'avoir le plus de contacts pour pouvoir éliminer le plus grand nombre.
Oui, c'est vrai aussi. Mais on voit quand même qu'aux États-Unis, depuis 2001, à part les attentats de Boston qui ont eu des conséquences assez limitées, il n'y a pas eu d'attentat. Donc c'est bien que leur renseignement fonctionne mieux que le nôtre.
Noé, pour finir peut-être sur ce sujet, et puis on reprendra le cours normal. Les sujets peuvent paraître dérisoires après ça, évidemment, mais de toute façon, je crains qu'on ait probablement l'occasion de reparler de ça. Enfin, je ne veux pas être dans un mauvais augure, mais en tout cas des renseignements et au minimum, soyons optimistes, à minima d'empêcher par l'éducation, comme disait Tiedel, à des jeunes de votre âge, hein, en gros, de tomber là-dedans. Noé,
Moi, juste concernant les événements, je ne suis pas spécialement surpris. Il me semble que M. le Premier ministre avait prédit des attentats comme celui-ci en Europe dans les années à venir. J'avais envie de pas le croire, j'avais tort, il avait raison. Pff, de toute façon, là, l'heure est plus au deuil, à mon avis. Vraiment au deuil, et je suis totalement compatissant aux familles des victimes parce qu'ils nous ont soutenus pendant à la suite des attentats. Il y a eu un énorme écho médiatique, notamment en Belgique. Et donc voilà, j'aimerais bien qu'on soit un peu tous solidaires, de toute façon c'est le cas, mais qu'on prenne vraiment l'ampleur de l'importance, ça aussi c'est le cas, mais surtout être solidaire, prêt, il faut Bruxelles.
La Tour Eiffel était aux couleurs du drapeau belge par solidarité symbolique hier. Louis, je ne sais pas si tu voulais prendre la parole. Non, Louise. À défaut de Louise.
Et je voulais juste dire aussi que d'un côté, on a vécu les événements de l'attentat de l'intérieur à Paris en novembre. C'était en novembre, oui. D'accord.
Novembre.
Et là, on a l'occasion de les vivre d'un côté externe. Et oui, je soutiens Noé qu'il faut être tous solidaires et vraiment soutenir les familles qui nous ont soutenus auparavant.
Je crois que j'ai parlé de janvier tout à l'heure, mais janvier pour Charlie Hebdo. Et bien sûr, c'était novembre 2015, la même année, pour les derniers événements tragiques. Bon, merci à vous. On va passer au premier sujet, la fameuse loi El Khomri, qui avait, puisqu'elle est en train d'être revisitée quand même quelque peu pour ambition d'assouplir, on va dire, pour faire simple, les règles du travail, le code du travail, le fameux code du travail, qui est très 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 épais en France, c'est vrai, objectivement parlant. Alors certains jeunes en particulier, pas uniquement, mais ceux qui sont allés dans les rues, certains lycéens comme vous, un certain nombre d'étudiants encore plus nombreux, qui ont fait des blocus ou en tout cas des manifestations, estiment que c'est à eux qu'on s'attaque déjà, avant même qu'ils arrivent sur le marché de l'emploi. Voilà qu'on propose ou on facilite aux patrons, dans certaines branches en tout cas, de, d'obliger en quelque sorte à faire plus d'heures, pas forcément davantage payées, des licenciements un peu plus aisés entre guillemets, pour que, c'est l'argument en tout cas de cette loi, eh bien, on embauche plus facilement les gens en CDI, le fameux CDI, le sésame, avec comme contrepartie, comme ça se fait dans certains pays, notamment en Grande-Bretagne, la possibilité de licencier, pas forcément facilement, mais avec un peu moins de contraintes et un peu plus facilement quand même. Et puis d'autres qui disent, peut-être certains d'autres adultes qui ne voient pas de bon oeil que leurs enfants aillent, adolescents aillent dans les rues et qui disent, tu n'as même pas commencé à travailler, qu'est-ce que tu fiches dans la rue et qu'est-ce que tu comprends, la loi elle connerie. Alors est-ce que ces adultes sont sévères ou est-ce que c'est ces jeunes, vos congénères qui ont raison, est-ce que c'est légitime d'aller dans la rue, vous n'y êtes pas allé autant que je sache, ça n'est pas un reproche mais un constat, est-ce que vous ne vous sentez pas concerné, vous sentez trop jeune ou concerné mais pas forcément envie d'aller dans la rue. Louis, cette fois-ci c'est lui.
Eh bien, moi je pense qu'on est pleinement concernés, bien plus que nos parents. Il me semble qu'il nous restera bien plus d'années à travailler que eux sous cette loi.
C'est pas gentil pour tes parents, ça, mais c'est vrai, mathématiquement.
Mais c'est vrai, mathématiquement parlant, c'est vrai. Il leur reste quoi, 30 ans grand maximum, je pense, à nos parents à travailler sous cette loi quand elle passera. Nous, on aura toute notre carrière à faire sous ces règles. Donc je pense qu'on a le droit d'exprimer notre avis sur ces réformes.
Alors, j'entends ça, certains disent quand même, ils n'ont même pas encore commencé à travailler ces jeunes, que c'est un peu peut-être réactionnaire, un peu plus chez les gens âgés, encore que ce soit plus subtil que ça, c'est pas aussi caricatural en termes d'âge, mais finalement, ils n'ont même pas commencé à travailler, et déjà, ils sont là à compter leurs heures. J'ai entendu l'autre jour à la radio un patron dire, la première chose qu'un jeune employé me demande, c'est, quels sont les horaires, quand est-ce que seront les premières vacances. Il est là, c'est le premier jour. Alors, ça peut arriver, mais qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Vous trouvez ça normal, Louis encore ? Et Louise ?
C'est ce que vous avez dit, enfin, pas vous en fait, les gens disent, ils n'ont même pas commencé à travailler et ils se plaignent déjà. Mais je pense que, pour prendre un exemple beaucoup plus gros et beaucoup plus flagrant pour accentuer le problème et qu'on voit bien comme que notre réaction est légitime. Si on disait à tous les gens qui étaient réduits en esclavage à l'époque, on va vous remettre à l'esclavage, je pense qu'ils manifesteraient. Alors qu'ils n'ont jamais été esclaves. Pourquoi ? Pourquoi il le ferait ? C'est exactement le même principe.
Bon, et tu penses que ça va jusqu'à l'esclavage, cette loi ?
T'as non, un peu j'exagère.
C'est une métaphore, une comparaison.
C'est une métaphore, pour, justement, pour bien faire prendre conscience aux gens que cet argument est un peu
dérisoire.
Louise ? Et Noé ?
Et je voulais dire aussi que les gens qui disent, comme pareil, que même si on n'a pas travaillé, on se plaint déjà... C'est un acte qui est assez mature, je trouve, de réfléchir et d'aller manifester pour justement pour des intérêts qu'on va vivre après. Et c'est important qu'on dise notre point de vue aussi. C'est pas seulement les adultes ou même les personnes qui sont en train de travailler qui doivent forcément donner leur point de vue à eux. On a aussi une part dans la société et il faut qu'on la manifeste, non ?
Pour rétablir la plus grande objectivité possible, il y avait aussi des personnes âgées. J'avais l'air de faire des camps là d'âge qui étaient dans la rue et qui étaient solidaires.
Oui, bien sûr.
Pour le coup, étaient à la retraite. Donc
et je disais par rapport aux personnes qui avaient...
Et bizarrement, ceux qui remballent justement les jeunes en disant arrêtez de vous plaindre sont ceux qui ont les situations les plus confortables, les patrons souvent, et qui n'ont absolument
aucun problème.
Aucun problème, ouais. Et savent très bien ce qu'ils peuvent faire, mais ils n'en ont... pas grand-chose à faire, en fait.
Alors, les patrons ont quand même des responsabilités importantes. Il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. Les patrons sont tous méchants et tous voyous. Et les employés tous parfaitement
exploités. J'ai jamais dit ça, mais bizarrement, c'est souvent eux qui râlent que nous râlons justement contre les lois qui peuvent être votées en leur faveur.
D'accord.
Alors qu'ils sont déjà bien avantagés.
Noé ?
Concernant notre réaction par rapport à notre âge et du coup du fait qu'on n'ait pas commencé à travailler... Vous parliez d'objectivité tout à l'heure, justement, on ne peut pas avoir une meilleure objectivité que nous, parce que justement, on n'est pas encore dans ce milieu-là. Il y a deux partis, donc forcément, le parti qui n'est pas content, il râle, et du coup, son objectivité est quand même, sous l'effet de la colère, un peu faussée, on va dire. Et puis, c'est pareil du même côté. Et puis surtout, je ne comprends pas bien cette... On parle beaucoup du chômage, enfin moi j'entends beaucoup ce problème-là, et puis le fait qu'on puisse licencier plus facilement, je trouve pas ça que ça soit une solution au problème. Enfin je veux dire, ça va pas dans le même sens que des discours politiques que j'entends par exemple.
Alors ça serait licencier plus facilement pour embaucher plus facilement, en tout cas c'est présenté comme ça, c'est-à-dire ça mettrait moins de freins. En fait l'idée c'est que certains patrons... sont un peu frileux, sachant toutes les démarches qu'il va falloir faire pour pouvoir licencier quelqu'un, s'il est incompétent, hein,
son meilleur des cas,
que dans ce cas-là quand même, même s'il peut y avoir excès de toutes parts, y compris des patrons, bien sûr. Et donc, sachant que ça sera un petit peu plus facile de licencier, du coup, je vais plus facilement signer des CDI. Bon, après, ça reste encore à prouver, hein, si la loi passe totalement. Il y a déjà eu des assouplissements, vous l'avez vu, hein, puisque M. Valls a réuni plusieurs syndicats. Certains syndicats sont pour, d'ailleurs, dont celui de la CFDT et d'autres de la CGT, assez traditionnellement, et contre. Lucien Etiadel.
Moi, je trouve ça aussi un petit peu encore bizarre de pouvoir autoriser comme ça le licenciement plus facilement. C'est quelque chose de pas très humain, je trouve. Parce que des employés comme ça qui travaillent depuis longtemps dans une entreprise pourraient se faire virer, du moins, au sens propre du terme, beaucoup plus facilement, sans trop d'explications, et ça serait autorisé par la loi, et ça serait comme ça, quoi. Ils n'auraient rien à dire, alors que ça fait plusieurs années qu'ils seraient dans une boîte, qu'ils travaillent très bien, ils n'ont pas forcément d'explications au fait qu'ils soient licenciés. À part, c'est la crise et on n'a plus d'argent pour vous payer, excusez-moi.
Donc vous trouvez que Lucien en dit trop, en fait trop, ou au contraire, vous êtes d'accord avec lui? N'hésitez pas, 0952 368 531, c'est même lui qui décroche le téléphone, et puis bien sûr qui peut même vous parler. 0952 368 531. Tiedel, nous t'écoutons.
Oui, sur le fond de cette réforme, de ce projet de loi, puisqu'il en est qu'au stade de projet, même s'il a été un peu modifié, je ne suis pas particulièrement pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas lu. Donc je ne connais pas tous les éléments qu'il y a dedans, mais je ne suis pas non plus diamétralement contre pour trois raisons. Premièrement, je pense qu'il faut arrêter d'opposer systématiquement les salariés et puis les patrons. Je ne pense pas que les patrons de PME, tout ce qu'ils veulent, c'est licencier leurs salariés. À mon avis, pour un patron, ce n'est absolument pas... C'est absolument pas souhaitable ni agréable de licencier qui que ce soit, parce que ça veut dire que l'entreprise va mal. Mmh. Deuxièmement, par rapport au licenciement, effectivement, faciliter les licenciements économiques, je dis pourquoi pas, parce que effectivement, si l'entreprise a un carnet de commandes vide pendant deux trimestres,
L'argument qu'on a entendu. Oui,
c'est vrai qu'il y a un moment, elle ne peut plus payer les salaires. Donc bon, à la rigueur, il vaut mieux licencier que faire faillite. Et puis troisièmement, quand on voit les autres pays, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire « Ah bah oui, l'Allemagne, c'est formidable, le Royaume-Uni, c'est formidable, l'Italie, ça reprend, machin, l'économie marche. » Et puis après, quand on veut essayer de faire la même chose en France et de faire en sorte que ce soit de prendre les mêmes mesures en France, même si par rapport au Royaume-Uni, c'est quand même très édulcoré, hein, ce qu'on fait en France. Mais bon,
après, c'est notre culture sociale, oui, dialogue social.
Oui, mais
aussi en France,
oui, mais je vois pas en quoi elle est atteinte, cette culture sociale. Je ne vois pas pourquoi tous les patrons. On a l'impression, en entendant certaines personnes, que tout ce que voudraient tous les patrons, notamment de PME, tout ce qu'ils voudraient, c'est de licencier tout le monde. C'est absolument pas l'impression que j'ai.
Mmh. Louis, tu sembles pas être d'accord. Louise, peut-être, d'ici ce que tu retrouves ton idée. Louis, d'abord.
C'est vrai que je suis pas tout à fait d'accord. On a quand même on parle d'économie beaucoup, mais est-ce que le côté social est peut-être pas un poil plus important que l'économie? L'argent, c'est des bouts de papier, le social, c'est nous. Donc tu parles quand même de licencier quelqu'un pour des raisons économiques.
Mais tu auras des bouts de papier, toi, tu seras payé quand même, on te le souhaite, un patron.
Oui, mais quand on se fait licencier, c'est qu'on était salarié. Si l'entreprise coule, c'est pas de notre faute, on n'était pas auto-entrepreneur. On n'a pas à être licencié pour la faillite de quelqu'un qui nous emploie. Ce n'est pas de notre faute, on n'a pas à être au chômage pour l'erreur de quelqu'un d'autre.
Oui, mais si l'entreprise a un carnet de commandes vide, la question ne se pose pas. De toute façon, que ce soit la faute de l'un ou de l'autre, la boîte finit par couler. Hein.
Oui, mais alors à ce moment-là, autant faire quelque chose pour ne pas la faire couler, justement. Continuer à faire des actions, continuer à essayer, justement, au lieu de... Parce que ça ne réduira pas le chômage, ou
pas la
ça
faire
l'augmentera
couler.
En plus.
Ben non, mais en plus, franchement, je me demande combien d'entreprises ça va concerner, parce que des entreprises qui ont un carnet de commandes vide pendant deux trimestres en France, il doit y en avoir, pas énormément. Et des entreprises qui font faillite en France, il y en a, en revanche, beaucoup plus. Qu'est-ce qui vaut mieux, que l'entreprise fasse faillite ou qu'elle licencie 10 personnes pour éventuellement pouvoir en réembaucher 10 après, une fois qu'elle ira mieux?
Mais face aux entreprises qui naissent, il y en a beaucoup aussi. On va dire que celles qui font faillite se recréent par la suite. Ça fait du donnant-donnant, ça rééquilibre la balance.
Oui, mais du coup, les entreprises qui naissent, le problème, de ce que j'entends, après moi j'en sais rien, je suis ni chef d'entreprise ni salarié, mais en tout cas, je pense que les entreprises qui naissent, elles peuvent être un peu frileuses, parce que c'est vrai que des fois, quand il faut payer, c'est vrai que c'est pas non plus... les entreprises sont... À mon avis, c'est vrai qu'il faut arrêter cette espèce de conflit entre les patrons et les salariés, parce que une entreprise, tout le monde est dans le même bateau. Si l'entreprise va mal, salariés et le patron vont mal, et si l'entreprise va bien, c'est pareil.
Après, tu sais bien qu'un CDI, c'est la garantie d'avoir un prêt, pour avoir une maison, une voiture, de soutenir sa famille.
Après,
on est licencié, certes pour retrouver de l'entreprise, c'est instable.
C'est bien de pouvoir accéder au CDI.
Et c'est pas bien pour les banquiers qui regardent plutôt d'abord si tu as un CDI, et autrement qui ne te prêtent pas d'argent pour ta maison.
Oui, mais c'est justement.
Alors, faut peut-être changer la mentalité des banquiers. C'est un autre.
Justement, je vois pas en quoi ça s'oppose avec avoir un CDI, le fait de pouvoir.
Les 10 personnes qu'on licencie, comme tu as dit tout à l'heure comme exemple, et si elles retrouvent pas du boulot de suite, et même si elles retrouvent du boulot de suite et qu'elles ont 3 boulots en 3 mois, j'exagère, les banques, elles sont un peu regardantes.
Je pense que si on ne les avait pas licenciées, l'entreprise aurait peut-être fait faillite. Donc, c'est pas mieux.
En sacrifier 10 pour sauver les 25 autres, c'est ça?
Je suis
d'accord à la fois avec l'opinion de Thiedel et celle de Louis et Louise, parce que, comme tu dis, Thiedel, il faut arrêter, je pense, le stéréotype conflit entre le patron et les salariés. Mais justement, cette loi, cette réforme, j'ai l'impression qu'elle va plutôt à l'encontre de ça et qu'au contraire, elle favorise un peu ce stéréotype, parce que faciliter le licenciement, c'est pas une bonne chose. Au contraire, si jamais l'entreprise est en faillite ou qu'elle est en déficit, je pense qu'il est plus logique de trouver des solutions au sein de l'entreprise même plutôt que de licencier les salariés qui sont, comme disait Louis tout à l'heure, pas forcément responsables de ce qui arrive à l'entreprise. Et c'est plus souvent la faute plus ou moins du patron qui prend les décisions et qui parfois prend des paris plus ou moins risqués.
Ce que je comprends pas, c'est que ça ne change rien si le patron prend une mauvaise décision et que l'entreprise fait faillite. De toute façon, finalement, les salariés, même s'ils sont pour rien, malheureusement, ils trinquent aussi, quoi.
Ouais, c'est ça que je trouve dommage, justement.
Et est-ce qu'à l'inverse, je vais être l'avocat du diable, c'est à Thiedel que je m'adresse notamment, mais c'est un peu mon rôle. Est-ce que c'est pas une forme de chantage aussi, c'est-à-dire qu'en gros, dès que ça va un petit peu moins bien, paf, on licencie. Et qu'est-ce que ça veut dire un peu moins bien? Tu parlais de carnet de commandes, est-ce que c'est à partir du quart en moins, de la moitié en moins? Ou est-ce que dès qu'il y a 3 euros de moins en 2016 par rapport à 2015, on licencie?
Non, je pense pas que ce soit le cas, parce que ça m'étonnerait que, vu le contexte en plus politique en ce moment, ça m'étonnerait que ça puisse se faire. Mais en tout cas, je pense que si c'est deux trimestres de baisse importante de chiffre d'affaires consécutives, ça fait quand même beaucoup.
Alexandre et puis Louise.
Il y a Louis et...
Oui. Et Alexandre qu'on n'a pas entendu encore. On va écouter Alexandre. Et puis Jérémy qui va se réveiller bientôt.
Le CDI, il faut que ça reste une valeur sûre quand même.
Il ne dort pas. Pardon, Alexandre.
Le CDI, il faut que ce soit une valeur sûre. Donc, si ça devient quelque chose de plus précaire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de patrons, pas forcément honnêtes, qui vont en profiter. Et donc, ça va devenir mauvais, quoi, vraiment, pour l'économie. Donc, après, il y a forcément les patrons honnêtes qui vont toujours, comme disait Thiedel, pas prendre du plaisir à licencier quelqu'un. Donc, moi, j'ai un avis assez partagé sur ça et puis je ne me sens pas encore concerné. Donc,
juste pour répondre là-dessus, puis après, je me tais, promis.
On note.
Je pense qu'effectivement, il y a des patrons malhonnêtes, mais les patrons malhonnêtes, à mon avis, faisaient déjà des ravages avant cette loi. Ils n'ont pas attendu ça pour exercer leur malhonnêteté. Et puis, deuxièmement, je pense que les patrons malhonnêtes, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, je pense que c'est un peu comme quand on dit les politiques ils sont tous pourris, les patrons ils sont tous pourris. Bon, je pense qu'il y en a 90% qui sont bien et puis effectivement 10% qui sont pas bien du tout.
Tiedel, c'est l'argent en fait qui fait ça, parce que quand t'es patron, logiquement, tu gagnes plus que les salariés. Et du coup, l'argent, des fois, ça transforme un peu les personnes. C'est ça qui fait les...
Oui, mais...
L'argent... Bon, on passe au troc, ok, hein, on arrête les sociétés sur l'argent, l'économie. On passe au
troc. L'argent, ça transforme les personnes, mais enfin, mais ça n'a rien à voir avec la loi.
Elle présente.
Ça concerne le travail. Et le
Louis, Mathieu et Jérémy.
Donc, ce qu'on n'a pas pris en compte depuis le début du débat, je crois que c'est que c'est déjà autorisé le licenciement économique. C'est juste que c'est plus compliqué de le faire. Donc quand il y a de véritables raisons, on peut le faire, le licenciement économique. L'avantage de cette loi pour les patrons, c'est que comme ça, les raisons, elles sont moindres, on peut licencier. Alors que là, mais aujourd'hui, c'est
totalement
c'est,
d'accord
c'est
avec
juste quand l'entreprise va couler, on peut licencier économiquement. Alors que cette loi, elle va permettre de licencier juste pour avoir un chiffre d'affaires en hausse,
non mais
pas empêcher la baisse.
Sauf qu'aujourd'hui, quand l'entreprise coule, licencier, ça coûte très cher. Donc, du coup, ils licencient pas forcément.
L'entreprise, elle coule dans les
quand
deux
elle coule, c'est trop tard. Ouais, de toute façon, le patron, les employés.
Oui, mais l'entreprise
pour
coule dans les deux cas.
Coule,
bah oui, voilà, justement. Quand vous licenciez des gens, ça coûte encore plus cher. L'entreprise coule encore plus profond. Bon.
Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous trouvez Tiedel très, 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 très libéral aujourd'hui. N'hésitez pas à appeler.
Faut pas exagérer.
J'ai dit l'avocat du diable. Mais le libéral n'est pas forcément le diable. 0952 368 530. C'est juste pour faire une transition, un prétexte pour rappeler le numéro. 0952 368 531. Tiedel est trop libéral, ou à l'inverse, Louis est un peu trop social, voire très à gauche. CGT d'un côté, MEDEF de l'autre. C'est le combat de Tiedel.
Non.
Défendez-vous. Et Louis, vous pouvez appeler.
Pas...
Mathieu, on avait dit.
Moi je suis d'accord avec Tiedel sur le fait qu'il faut arrêter de dire que les patrons sont tous des cons. Hein. Parce que c'est un peu, malheureusement, beaucoup de gens qui pensent ça. Même si c'est vrai qu'il y a eu des abus par le passé, qu'il y en a encore actuellement. Mais il faut aussi que les gens, enfin les patrons et ces gens-là, mais pas forcément les patrons d'ailleurs, juste le système, arrêtent de penser que pour faire des économies, il faut tout de suite virer des gens. Je pense que vu comment fonctionnent les entreprises, il y a un beaucoup plus gros budget en communication qu'en salaire. Et du coup, peut-être faire des économies ailleurs et du coup, repenser la façon de licencier et pas licencier directement pour faire des économies.
C'est vrai.
Faire des économies sur la communication, sur le matériel, enfin voilà.
Et puis faire des économies sur le social. Est-ce que c'est pas se marcher sur la tête ? Parce que une fois qu'une personne, les personnes pauvres, on va dire, qui ont justement été licenciées, qui ont des problèmes, sont pas-elles des poids pour la société et qui coûtent justement cher à cette société ? C'est un peu
en indemnité de chômage.
Ouais, je suis d'accord. Même après, des gens qui savent plus. Du coup, la pauvreté amène à beaucoup de choses. Ils savent plus soigner. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et
mais bien sûr, on est tout à fait.
On est d'accord. Ça coûte pas forcément peut-être plus cher.
On est tout à fait d'accord là-dessus, mais simplement.
De les garder sur le
simplement ce que je comprends pas, c'est de dire si l'entreprise fait faillite, finalement, il y a encore plus de gens qui vont se retrouver sans
aider
emploi.
Aider les entreprises à plus faire faillite. C'est un peu facile à dire, mais...
Oui, c'est-à-dire que apparemment ça n'a pas l'air de marcher.
Redistribuer les richesses, peut-être.
Jérémy, tu voulais dire quelque chose ?
Tu disais à quoi ça servait de licencier si ça coûte très cher à la société. Eh ben, en même temps, le patron, ça l'arrange, lui, parce que ça lui coûte plus rien.
Je suis d'accord avec toi, mais...
Indirectement, oui, parce qu'ils payent des impôts. Ils disent qu'ils en payent trop. Et voilà, tous ceux qui payent des impôts, les patrons en font partie. D'une certaine manière, les cotisations chômage, c'est aussi indirectement la contribution de nos impôts, des contributions sociales diverses et variées. Donc oui, ça, le chômage, c'est un coût. Mais bon, ça s'appelle la solidarité et l'entraide. Tiedel, n'oublions pas tout de même le modèle social français.
Ah, mais bien sûr.
On parle beaucoup de gens, en particulier à gauche en ce moment, qui ne reconnaissent plus la gauche.
Et puis, il faut surtout pas... Mais bien sûr, et puis il faut surtout pas... favoriser la précarité. Mais ce que j'essaie de dire simplement depuis le début, c'est que...
On a compris. Mais est-ce que c'est des mesures de gauche ?
C'est que finalement, est-ce qu'il vaut mieux... Oui, mais
le procès qui fait...
Est-ce que c'est des mesures de gauche ou de droite, ça...
J'ai envie de dire,
on veut pas le savoir. Ouais, il vaut mieux, à mon avis,
même
se demander...
Même ceux qui ont voté pour François Hollande ?
Est-ce que c'est une bonne mesure ? Mais moi, enfin, en 2012, je sais pas si j'avais eu le droit de vote,
non, je pense pas que tu aies le droit de vote.
Non, je n'avais pas le droit de vote.
Je te confirme, rappelle-nous ton âge. Tu n'avais pas plus de 18 ans en 2012 qu'aujourd'hui.
Si j'avais eu 18 ans en 2012, j'aurais peut-être voté pour François Hollande. Mais par rapport à François Hollande, moi, François Hollande n'a jamais dit que... De toute façon, on savait déjà en 2012 que François Hollande n'était pas un socialiste pur et dur. On savait que c'était un social-démocrate. François Hollande, on l'a toujours su, il s'en est jamais caché. Bon. Donc,
un petit peu quand même, il a quand même un petit peu, pas menti, mais pas trop réalisé ce qu'il a promis.
Oui, ah ben ça c'est une chose, oui. Ça, il a pas fait
ça change, ça change un peu toute la donne.
Ça, hein. Il n'a pas fait tout ce qu'il a promis de faire, mais d'un autre côté, quand les gens disent on ne le reconnaît plus, il prend des mesures de droite et tout. Mais on savait bien en 2012 que c'était un social-démocrate, donc il était plutôt à la droite du Parti Socialiste.
Qu'on dise tout le temps, il n'a pas fait ce qu'il voulait, il n'a pas fait ce qu'il avait promis, tout ça. Il n'a quand même pas eu la meilleure situation. Parce que droite ou gauche, ils lui ont laissé une France pas dans un bon état.
Tout à fait.
Il s'est tapé deux interventions militaires en début de mandat. Et là, il finit sur une France détruite par les attentats.
Pour rétablir notre neutralité politique légendaire à CCC, Nicolas Sarkozy a eu la crise économique et François Hollande a eu effectivement les attentats, les effets
de la crise économique.
Non mais on va pas les plaindre, dans tous les cas ils sont là pour ça. Hein. Excusez-moi, on peut pas.
Oui.
S'ils veulent essayer de relever le bateau et de relever le défi, bah ils le font. Et oui. S'ils veulent pas, ils se présentent pas au présidentiel.
Mais bien sûr.
Hein. Excusez-moi.
Bien sûr.
Ils sont là, ils savent très bien.
On termine avec Jérémy, avec Louis, parce qu'il faut qu'on passe au deuxième sujet quand même.
Alors, juste pour info, vous savez quelles sont les autres principales mesures évoquées dans ce projet de loi ? Alors, à part le licenciement.
Le projet de loi, c'est plusieurs centaines de pages. Donc, comme Thiedel, je n'aurais pas la prétention, l'hypocrisie de vous dire que je l'ai lu. Mais ça se concentrait autour de ça. Ça se concentrait autour aussi, mais ça a été enlevé dans le nouveau avant-projet, d'autoriser un peu plus d'heures de travail pour les stagiaires, les jeunes stagiaires dans les entreprises. Mais ça, ils sont revenus en arrière. D'autres choses, mais on lira ça pour le mois prochain. Ouais. On va surtout attendre de voir au final ce que ça va donner, parce qu'effectivement on a parlé de beaucoup de choses et un certain nombre ont été retirés dans le deuxième avant projet de loi. Ça tournait pour te répondre essentiellement autour de ça. Effectivement, la simplification du code du travail et moins de contraintes économiques, administratives et légales, là c'est plutôt juridique en termes de licenciement, pour les patrons. C'est pour ça que certains y ont vu une espèce de co-signature avec MEDEF, mais ne repartons pas dans cette provocation au célébat, car Thiedel va rebondir aussitôt. Il a promis de ne plus parler. En tout cas, sur ce sujet-là, nous pouvons passer donc au deuxième. Et il s'agit d'un sujet sérieux encore, les migrants. On parle un peu moins des mineurs, dont certains d'ailleurs sont sans père, sans mère, parce que soit ils sont restés dans le pays d'origine, soit ils sont orphelins. Est-ce qu'au moins pour ces mineurs-là, on ne doit pas assouplir la loi ? On est plutôt en train de limiter un peu les frontières. Et enfin, autoriser au moins, c'est à peu près 300 migrants mineurs, le chiffre est approximatif, à aller en Angleterre pour vivre dans des conditions décentes et pas au milieu des détritus et d'adultes qu'ils ne sont pas encore. Vous vouliez un petit jingle, c'est ça ?
Sur
les migrants, la transition va être un peu difficile, mais enfin, si vous voulez, on va écouter un petit jingle. Car tout se termine en chanson. Mais nous n'avons pas encore terminé 0952 368 531. On vous attend. Nous sommes déjà au deuxième sujet. Vous pouvez rebondir si vous voulez sur les deux précédents, les attentats et la loi El Khomri, CGT versus patronat, Thiedel versus, pardon, dans l'autre sens, Louis versus Thiedel.
Faut pas exagérer.
Je n'exagère jamais. Bon, alors, arrive cette musique, jeune Jean. Oh, des promesses. Voilà comment ils sont les garçons, Louise. Hein, des promesses. Heureusement que les filles sont là, un peu nombreuses. Moins que jamais, hein, Louise est la seule aujourd'hui. Fidèle. On nous entend sur la musique ?
Normalement, oui.
Louise, la condition féminine est sauve, elle est là, toujours, présente. Ah, on s'en va trimer, c'est l'actualité. Ah, par rapport à notre sujet. Tu entends, Thiedel ?
Non, non, mais... Attention, je crois que mon propos a été interprété quand même...
Je ne me permettrai pas.
Non, non. Pas ce que je voulais dire.
Alors c'est de qui ça ? Vous avez raison, on n'est pas du tout en retard, donc mettez-nous la chanson en entier.
De Jagaya.
Jaria ?
Jagaya. Second classe, peuple de second classe, tu n'auras que des miettes. Pour eux tu n'es que de marionnettes. Second classe, peuple de second classe.
Merci Lucien. Alors il y a aussi un peu des citoyens, c'est pas le cas pour le coup, en tout cas pas français, mais des gens un peu de seconde classe, hélas, en tout cas très déclassés au sens premier du terme, qui se retrouvent donc dans cette fameuse jungle de Calais, le nom est parlant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Des jeunes qui ont votre âge et qui vivotent, en sachant pas très bien combien de temps ça va durer, entre deux pays, la frontière franco-britannique. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit pas dire, bah, après tout, certains de leurs familles parfois sont en plus déjà arrivés en Angleterre, alors certes de manière illégale, mais est-ce qu'on doit pas les encourager? 300 c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, au regard du nombre complet. Eux, les autoriser à aller en Angleterre pour avoir une vie décente. Ce qui, à tout âge, devrait être normal, mais à 17 ans en particulier, où voilà, la loi est la loi et il ne devrait pas être là. Il faut trouver d'autres solutions. L'Angleterre semble s'y opposer. Oui, la France aussi pour l'instant. Louise.
Je voulais juste dire... Est-ce qu'on m'entend?
Oui. On t'entend.
Oui. Que d'un côté, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment le droit d'être là, mais c'est des humains comme les autres et il faut... Enfin, c'est pas parce qu'ils sont migrants ou qu'ils viennent d'un autre pays qu'il faut les sanctionner. Et peut-être que l'Angleterre n'est pas vraiment favorable pour les accueillir, mais en même temps... oui, voilà, c'est des gens comme les autres, et ça aurait été des Français, ben, on les aurait envoyés en Angleterre, même si du coup ils auraient été en France, ça aurait pas marché. Mais c'est juste un exemple. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on met une barrière alors qu'ils ont le droit de vivre comme nous, malgré leurs pays différents ou leurs origines différentes.
Alors l'Angleterre s'oppose à l'arrivée de ces migrants. Certains disent que la France et une bonne partie de l'Europe finalement travaillent un peu pour l'Angleterre. Là aussi, je suis un peu dans la provocation, mais. J'entendais, je ne sais plus quel homme politique, dire finalement quoi c'est notre problème. Alors, ils sont sur le territoire français, mais ils veulent partir en Angleterre, qu'ils y aillent. Ça devait être M. Mélenchon. Bon, il est toujours, clair dans ses propos et un peu radical peut-être. Mais bon, d'une certaine manière, c'est vrai qu'on travaille tous pour l'Angleterre. C'est peut-être un peu résumé, mais on ne peut pas non plus considérer que l'Europe soit une passoire, comme ça a été dit aussi par d'autres. Oui.
Alors moi je...
Ça c'était Quentin, le réveil. Le réveil de nos oreilles.
Alors moi je pense comme Louise. Donc pour parler plus particulièrement des jeunes qui ont à peu près notre âge, hein, c'est ça? Je vois pas pourquoi...
Ils sont mineurs.
Comment?
Ils sont mineurs en tout cas, oui.
Ouais, et ben je vois pas pourquoi on ferait une différence entre eux et puis leurs parents. Ou même les plus petits, les bébés, parce que ben ils sont tous pareils et peut-être qu'ils sont heureux avec leur famille, donc je vois pas pourquoi on les séparerait.
Je pense qu'il s'agit pas de couper les familles, hein, c'est plutôt ceux qui sont soit seuls, parce qu'il y a aussi des orphelins oui. dans cette jungle, ou des membres d'une famille qui justement sont séparés, c'est-à-dire que certains ont pu passer de l'autre côté et eux non. Je ne pense pas qu'il soit de question, en tout cas pour ceux qui suggèrent de cette autorisation, évidemment, de laisser les adultes d'un côté et faire passer les enfants de l'autre. Encore que, peut-être que certains adultes seraient d'accord pour que leurs enfants aient une vie meilleure en Angleterre. Mais bon, s'ils sont très jeunes, c'est un peu plus compliqué quand même. Louise ?
Moi, je trouve que s'ils ont quitté leur pays pour venir en France, c'est que déjà, ils ne devaient pas être...
En Angleterre, hein, pour la plupart, ils veulent aller.
Oui, en Angleterre, non, mais...
ils veulent juste passer chez nous, mais on les arrête. Donc, c'est un peu ça le problème.
Non, mais je veux dire qu'ils sont venus, qu'ils ont changé de pays. Mm-hmm. C'est juste qu'ils ne devaient déjà pas être heureux dans leur pays. Alors, s'ils ont eu une vie difficile ou des conditions difficiles selon le régime du pays ou les conditions là-bas, peut-être que ce serait bien qu'on... Pas on leur facilite la vie, mais qu'on leur permette d'avoir une vie peut-être un peu plus douce que là où ils étaient, même s'ils venaient... c'est pas pour des mauvaises raisons qu'ils sont venus.
Mmh. On réagit comme un pays des droits de l'homme.
Ouais.
On t'a pas entendu, Quentin, répète.
Je pense que les conditions où ils sont en ce moment sont très difficiles aussi. Et je pense que, après, au niveau des intempéries et tout, je sais pas si.
Ça s'appelle pas la jungle pour rien. Donc, voilà,
je pense pas qu'il y ait de meilleures conditions que dans le pays où ils étaient avant de venir.
On est d'accord, la jungle, c'est bien un bidonville, du moins, ce qui va ressembler bientôt à un bidonville
vers Calais. À Calais, bien sûr, oui. 0952 368 531 0952 368 531. N'hésitez pas à nous appeler, d'accord ou pas d'accord, ou vous avez tout simplement envie de donner votre avis sur un de ces trois sujets du jour, plus les attentats, hélas. Eh bien, n'hésitez pas, nous sommes en direct encore pendant quelques minutes, et le troisième sujet à venir est donc cet appel des 130 médecins pour qu'on assouplisse la PMA. Tiedel, et puis Noé.
Sur les réfugiés de Calais, d'abord je crois qu'on est en train de démanteler le camp qu'on a appelé la,
la jungle.
Ça prend du temps.
Oui, ça prend du temps. D'abord, je pense qu'on devrait sans hésitation accueillir tous ces réfugiés dans de bonnes conditions en France et en Angleterre pour deux raisons. Premièrement, il faut que la France et la Grande-Bretagne prennent leurs responsabilités, ou du moins, prennent leurs responsabilités par rapport aux décisions qu'elles ont prises en 2012. En 2012, on s'était posé la question d'une intervention, parce que, attention, tous les réfugiés qui viennent sont pour la plupart syriens ou irakiens. Ils sont victimes du président criminel contre l'humanité, M. Al-Assad, en Syrie, et des barbares, des égorgeurs de Daesh. Donc, en 2012, au moment où la révolution syrienne a commencé, où M. Al-Assad a commencé à tirer sur son peuple,
à gazer sa propre population,
à utiliser même des armes chimiques, on s'était dit, on va intervenir. Bon, avec une coalition qui comprenait notamment les États-Unis. Bon, les États-Unis ont fait marche arrière parce que ça leur rappelait de mauvais souvenirs. Hein. C'est vrai qu'avec l'Irak, c'était une intervention qui n'était pas très glorieuse, mais on a décidé de ne pas intervenir. Et on savait qu'en n'intervenant pas, les massacres allaient continuer et que le chaos allait s'installer, que ça allait permettre. Enfin, on savait pas que le groupe terroriste Daesh allait s'installer, mais on pouvait prévoir que le chaos allait s'installer et que des massacres allaient avoir lieu.
Donc il faut assumer
en donnant derrière, en donnant lieu à des grands mouvements de population. Donc à ce moment-là, si la France ne voulait pas accueillir de réfugiés, elle aurait dû dire en 2012, écoutez, vous voulez pas intervenir en Syrie, quand il y aura des millions de réfugiés, c'est vous qui les accueillerez. Elle ne l'a pas fait, ça ne s'est pas fait pour des raisons qui sont certainement très bonnes, hein, parce que c'est facile aussi de critiquer la politique internationale, mais c'est bien sûr des sujets qui restent très compliqués.
Ouais.
Mais je pense que...
Moi, concernant les jeunes de 17 ans, je pense que c'est typiquement le genre de questions ou de situations où on ne peut pas avoir un avis arrêté sur la question, parce que les arguments sont aussi bons d'un côté que de l'autre. Je suis un peu de cet avis concernant la loi El Khomri, même si on m'a pas laissé m'exprimer, mais c'est pas grave.
Non. Je sens un peu de frustration.
Un tout petit peu. Et donc là, du coup, moi, évidemment, je serais... Enfin, évidemment, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais je pense que la bonne chose, ce serait de les laisser vivre comme ils veulent, comme disait Louise, parce que c'est des êtres humains. Mais malheureusement, envoyer des jeunes de 17 ans dans un pays apparemment sans adultes, sans leurs parents, même si la plupart sont quand même orphelins.
Qu'est-ce que tu voulais dire sur la loi El Khomri? Allez, rattrape-toi, tiens, une session de rattrapage.
C'est pareil. Opposer le social et l'économie, c'est pas forcément une bonne chose, parce que déjà ça renforce le stéréotype comme...
Ça, Tiedel, c'est très bien chargé de dire ça.
Oui, oui.
Tu voulais rien dire d'autre. Donc pour l'instant, je suis désolé, mais la frustration.
Non. C'est surtout... les arguments sont aussi bons d'un côté que de l'autre. En fait, on peut pas négliger le genre, l'humain, mais d'un côté, économiquement, ça bloque. Mm-hmm. Donc au final, on peut pas avoir un avis. Moi, c'est pareil, je suis partagé.
Sauf qu'il y a une loi et qu'il y a des gens qui manifestent... mais ils disent qu'ils sont d'accord, et d'autres qui manifestent leur désapprobation.
C'est exactement ça.
Mais c'est compliqué d'avoir un avis, on est bien d'accord. Mais on est là pour débattre, et c'est bien ça. Si je vous donnais proposé que des sujets, si nous traitions que des sujets simples ici, ce serait trop simple.
Merci. Mais du coup,
par définition.
Je suis d'accord avec Cédel quand il dit qu'il faudrait d'abord accueillir les migrants dans de bonnes conditions, pour justement que des enfants, parce que même s'ils ont 17 ans, pour moi c'est un peu grand, ça reste des enfants. Et un enfant ne devrait pas avoir à vivre, d'ailleurs, toutes ces choses de guerre me révulsent même. Et donc, pense que c'est des enfants, ils devraient être accueillis.
Jérémy, merci Noé. Jérémy, Alexandre, vous voulez dire quelque chose? Alexandre et Jérémy?
Oui, en plus, que ce soit des humains, ce sont des enfants qui sont encore plus innocents. Je ne dis pas que les parents sont coupables, ils sont innocents aussi, mais les enfants, ils n'ont même pas choisi de quitter leur pays pour la plupart, je pense. Peut-être qu'il y a 17 ans, si, mais les plus petits, non. Donc, ils n'ont même pas choisi. Personne ne choisit. Les migrants, ils ne choisissent pas. Mais
ils sont même pas conscients encore, je pense, de, des conditions qu'ils vivent. Donc c'est vraiment horrible. Faut, je suis d'accord avec Noé et Thiedel, il faut leur offrir des conditions décentes, quoi. Après, le problème, qu'ils passent en Angleterre ou pas, ou qu'ils restent en France, c'est quand même deux pays développés, donc c'est leur choix pur.
Enfin, ils ont envie de. C'est pour eux,
c'est un lieu de passage.
Oui, du coup,
c'est plutôt l'Allemagne et l'Angleterre, surtout l'Angleterre. D'ailleurs, ça en dit peut-être. On en avait déjà parlé, mais ça en dit peut-être un peu long sur finalement les visions qu'ont les autres de la France.
Un pays démocratique et prônant.
Mais pas forcément le plus accueillant et intéressant financièrement. On revient à la loi des communs. Ça a peut-être donné raison à Thierry.
Évidemment, quand on voit l'accueil qu'on leur réserve en France, ils n'avaient pas envie de venir, ça c'est sûr. Bon, et puis c'est vrai que l'Allemagne, à côté de ça. Franchement, doit se moquer de nous parce que elle arrive à accueillir 1 million de réfugiés et puis nous avec 3 000 personnes dans une ville, on n'arrive pas à s'en occuper décemment. Franchement, il y a quand même un problème quelque part.
Jérémy, on t'écoute pendant que le standard sonne et qu'on va probablement écouter quelqu'un. Nous vous remercions enfin de vous faire de vous manifester, Jérémy. Je crois qu'on n'entend pas Jérémy, Mathieu. Jérémy a tout abandonné. Mathieu a tout abandonné pour le standard. Il a raison, c'est une priorité. Mais enfin, Jérémy aussi notre priorité ici.
Alors, l'Angleterre ne voudrait pas qu'on laisse passer ces migrants. Parce que, évidemment, c'est pas dans leur intérêt. Mais en même temps, la Grèce ou l'Italie, ils veulent pas de migrants et pourtant, ils en ont.
Ne quittez pas, hein, chère auditrice ou cher auditeur. Jérémy, vous voulez peut-être lui répondre ? Vous n'avez peut-être pas entendu ce qu'il vient de dire, du coup.
Est-ce que vous nous entendez bien ?
Bonjour ? Bonjour ? Allô ? Bonjour ? Allô ? Bonjour, vous êtes en direct au standard de CCC de Radio Diwa. Bonjour, jeune homme, monsieur. Je ne sais pas. Jeune homme, me semble-t-il.
Allô ?
Oui ? On vous entend, on vous entend.
On vous entend.
Il peut y avoir plusieurs personnes sur la ligne, je pense.
Non, pas forcément, je pense.
Ah non.
Monsieur, bonjour, monsieur.
Il y a un peu d'écho, en fait. Il faut qu'il
éteigne la radio. Plusieurs personnes sur la... Non, je ne pense pas.
Vous avez la radio allumée derrière vous ou pas ?
Allô, monsieur ? J'ai l'impression qu'il y a un décalage. Parce que
en
je viens d'entendre, on vous entend dans la radio.
Vous devez avoir
la
radio derrière vous, il faut l'éteindre. Il faut éteindre votre radio.
Il y a un petit peu de décalage.
Oui. Allô, monsieur ?
Oui.
Alors, il faudrait que vous éteigniez la radio.
Oui, j'ai la radio allumée, oui.
Eh ben, il faut l'éteindre parce que ça fait un écho.
Oui.
Surtout, il entend après ce qu'on lui dit.
Je vais essayer de me mettre dans une autre pièce. Oui, allô ?
Bonjour, monsieur.
Oui.
Nous vous écoutons.
Deuxièmement, je voulais rassurer un petit peu comment s'appelle Louis. Hein, il n'y a aucun problème d'être radical pour le sujet précédent.
Oui.
Voilà. Ma question c'est ces migrants là qui ont eu la chance de passer ou de ne pas passer. Enfin, pour ceux qui sont passés de l'autre côté, on va dire, on a assez peu de nouvelles en fin de compte de ce qu'ils deviennent.
C'est vrai. D'ailleurs, les chiffres sont assez approximatifs. Hein, je disais entre 150 et 300 mineurs, mais on n'en est pas tout à fait certain. Enfin, en tout cas, on n'a pas l'information très précise, c'est vrai. Et donc, vous aviez une question à poser ? Ou c'était...
Allô, allô ?
Oui. Vous aviez une question à poser à l'un d'entre nous ? Ah, surtout aux jeunes, lycéens ?
Allô ?
Ah, un petit problème.
Allô ?
On vous entend, on vous entend.
Moi, je vous entends pas du tout. C'est très très loin. Je perçois une parole sur deux. C'est embêtant.
Alors, on va essayer de coordonner ça.
Un décalage sur le réseau.
Nos techniciens sont sur les starting blocks. Vous nous entendez toujours ? Toujours un décalage ?
Bon, c'est pas très grave. Ça va un petit peu nuire à la qualité de l'émission. Je crois que je vais raccrocher. C'est préférable. Je ne vous entends pas du tout. Hein. Je n'aurai pas ma réponse.
Allô ?
Ah, c'est dommage. Vous aviez une question à poser ?
Est-ce que vous nous entendez là ?
La réponse, il faudrait qu'on entende votre question.
Ah, très bien. Ah, très très bien.
Ah bon, bah. Vous entendez là ?
C'est parce que t'as muté le micro.
J'ai rien.
Mais si t'as. Non, appuie pas.
Là, est-ce que vous nous entendez, monsieur?
Allez-y, allez-y.
Vous nous entendez ou pas?
Un petit peu mieux, mais c'est pas...
En fait, c'est qu'il y a un décalage. Donc parlez, dites tout ce que vous avez à dire, on vous entendra, mais un peu plus tard. Et du coup, il doit y avoir une ou deux secondes de décalage. Allez-y, parlez.
D'accord. Ma question, c'était ça. Pour ceux qui sont passés de l'autre côté, donc en Angleterre, ou voilà, je voulais savoir ce que ces gens deviennent, en fin de compte. Ils passent, d'accord, mais économiquement, qu'est-ce qu'ils deviennent Quelles sont leurs conditions de vie là-bas? Est-ce que c'est... Voilà.
Vous parliez de ceux qui étaient déjà passés, d'accord.
Est-ce qu'ils s'éclatent, en gros, hein? Est-ce qu'ils vivent bien?
Alors, on a eu quelques reportages, mais pas très nombreux, c'est vrai, sur ce qu'ils devenaient, notamment... alors, évidemment, on montre toujours peut-être le bon exemple, ceux qui ont fait des études, et qui travaillent, et qui sont ingénieurs, et... Mais on a
Je vous entends plus.
Peu de retours.
Ah, c'est le décalage, encore une fois.
Le
décalage, encore une fois.
Oui, je ne sais pas, ce qu'on peut faire. Pour avoir quelque chose de bien, je sais pas. Bon, c'est pas très grave, je vais rallumer mon ordinateur et vous écouter.
Merci, c'est gentil de continuer à nous écouter.
Merci
en tout cas, d'avoir été patient.
Il n'y a pas de
Au revoir. Ça.
Merci.
Dis-nous pour le problème technique.
Voilà, le monsieur est parti, donc désolé pour ces petits bugs. Nos techniciens vont analyser le problème et on va pouvoir continuer donc sur le troisième peut-être et dernier sujet parce qu'on est un petit peu en retard, voire très en retard. Mais nous sommes en direct, il faut nous excuser. Nous gérons, tandis que Louise arbore le visage de la jeune Flora sur son téléphone portable. Grâce à moi, vous avez l'image aussi.
Nous ne sommes que des...
Aujourd'hui, on va perdre trois oreilles, il va falloir arrêter. Vous savez que c'est dangereux, ça, hein, pour les acouphènes et les problèmes auditifs. Quentin, tu as fini de faire l'imbécile ? Nous allons appeler la gendarmerie nationale sur place. Allez, le troisième sujet, redevenons sérieux. C'est donc ces 130 médecins qui ont publié cette tribune libre et qui s'adressent un peu aux citoyens et au gouvernement, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas aux députés, puisque c'est eux qui font les lois, plutôt. Qui votent les lois, en tout cas. Et donc leur idée, qui n'est pas une idée, qui est un constat, ils aident depuis plusieurs années déjà des femmes seules, sans forcément leur demander si elles sont en couple ou pas, homosexuelles ou hétérosexuelles, mais des femmes seules qui désirent avoir un enfant, par définition toutes seules, malgré la chanson de Goldman, ça n'est pas possible, à la procréation médicalement assistée, la PMA. Et ils pensent qu'il faut assouplir la loi, qu'il faut autoriser à toutes les femmes, pour l'instant il ne s'agit que des femmes, en tout cas dans cet appel-là, célibataires ou pas, en couple avec des femmes. Alors là, pas ou pas, puisqu'il n'y a pas de difficultés pour les couples hétérosexuels. Et la loi du moment, c'est que seuls les couples hétérosexuels peuvent se faire aider, assister. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils ont raison, tout en étant hors la loi, hein, ils le disent, ils l'avouent d'une certaine manière, mais pour eux, c'est le sens du progrès et il suffit de faire quelques kilomètres à la frontière espagnole pour avoir la possibilité de se faire aider à avoir un enfant quand on est une femme. Louise, on t'écoute.
Je suis la seule fille ici sur l'émission.
C'est vrai.
Et je voulais dire que je suis totalement d'accord avec ces médecins parce que si on a envie d'avoir un enfant et qu'on ne peut pas en avoir un, je trouve que c'est totalement légitime de pouvoir en avoir un par des moyens scientifiques vu que la technologie et les moyens scientifiques ont évolué. Et à mon avis, on a tous le même droit d'avoir un enfant, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la fertilité ou non de la personne. Et je pense aussi que pour les femmes homosexuelles notamment, c'est pareil, c'est au même titre. Je ne vois pas pourquoi on fait encore de différence là-dessus. Il y a beaucoup de lois qui sont passées au niveau des homosexuels. Et à mon avis, ils devraient avoir totalement les mêmes droits que les hétérosexuels, même si apparemment on ne peut pas avoir un enfant. Enfin, c'est plus compliqué.
Donc ça ne pose pas de souci que ces médecins finalement soient hors la loi.
Allô ?
Non, aucun.
On a un nouvel auditeur, une nouvelle auditrice, allô ? Un auditeur, bonjour monsieur.
Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Nous vous entendons, est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on a un souci avec l'auditeur précédent?
Oui, je voudrais revenir sur le sujet précédent, bon, avec peut-être un peu plus de chance que votre auditeur qui a été obligé de raccrocher.
Ça marche nickel, pas de souci.
Non, on vous entend très bien.
Toujours.
Il n'y a pas de décalage pour nous, si pour vous non plus, c'est parfait.
Bon, je vous entends un peu faiblement, mais c'est bon quand même. Oui, je voulais dire, sur le problème des migrants, effectivement, il faut les accueillir. Mais on focalise sur l'Angleterre, sur la France, sur l'Allemagne surtout. Il faudrait que l'Europe soit un peu plus solidaire et que si tous les pays se partageaient ces pauvres gens, je crois que ça serait mieux. Et puis ce qu'on peut constater aussi, c'est que des pays riches qui sont très proches de la Syrie ou de l'Irak n'accueillent personne, tels que les Émirats Arabes Réunis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc.
Il y a des pays plus proches de ces régions-là qui, effectivement, se mouillent pas trop.
On peut s'étonner de ce... Enfin, c'est facile à dire, évidemment, mais c'est toujours le problème de la solidarité.
Si Adèle veut vous répondre quelque chose.
Alors, juste, moi, c'est vrai que par rapport à l'Europe, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il devrait y avoir une meilleure organisation au niveau européen. Finalement, est-ce que l'Union européenne n'est pas là pour ça ? Il devrait y avoir une meilleure organisation au niveau européen pour accueillir ces personnes. Et puis, effectivement, au niveau des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, il semblerait normal qu'ils accueillent des réfugiés. Maintenant, je suis pas spécialiste de ces pays, hein, mais il me semble qu'il y a des problèmes. Ils ont des problèmes religieux avec notamment... enfin, il y a différentes sortes de religions dans ces pays, et alors... c'est parfois difficile.
Les sunnites et les chiites.
Voilà, notamment. Entre sunnites et chiites, les relations sont parfois tendues, difficiles, ce qui peut expliquer que.
Oui, vous avez certainement raison. C'est un peu dommage que la religion prime et pas la solidarité.
Mais tout à fait. Tout à fait.
C'est des pays assez riches, hein, donc les Émirats arabes, le Qatar, et qui n'ont peut-être pas forcément envie d'accueillir des gens moins riches, on va dire.
D'ailleurs, ces pays accueillent quand même beaucoup d'étrangers, puisque il me semble que la population des Émirats, c'est quand même 70% d'étrangers. Donc, alors, c'est pas d'étrangers migrants, hein, mais...
Voilà, c'est mon avis aussi.
Mais bon...
De la main-d'œuvre dont ils ont besoin, ou des gens déjà fortunés.
Voilà.
Il y a beaucoup de Pakistanais, notamment.
Maintenant, peut-être qu'ils n'ont plus besoin de main-d'œuvre. Ce qui
est... Il faudrait savoir, vous avez sûrement raison sur le fait que le problème religieux est un problème.
Oui, je pense.
Peut-être enfin, j'en sais rien. La question, c'est pas nous qui allons les faire changer d'avis.
Oui, mais tout à fait.
Bon, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir accueilli. Je vous laisse repartir sur le troisième sujet. Et je voulais vous dire que votre émission est très intéressante, qu'elle est certainement unique en France. Et continuez.
Bon, c'est pas la première fois. Certains sont reconnus de votre voix, donc on
a reconnu votre voix, monsieur. Merci. Hein.
Merci beaucoup d'avoir appelé.
Vous êtes infidèle, apparemment. Merci.
Ben oui, infidèle.
Plusieurs d'entre les chroniqueurs ont reconnu votre voix, donc merci de nous avoir appelé et continuez à nous écouter. Alors
merci,
n'hésitez
beaucoup.
Pas à nous rappeler.
Merci. Merci, hein.
Merci monsieur.
Merci monsieur. Merci. Au revoir.
Au revoir, à la prochaine. À la prochaine, à Ticonta. Quelqu'un d'autre sur donc on revient du coup, parce que là on était sur les migrants, on était reparti sur les migrants, sur ces femmes et ces médecins. Tout le monde est d'accord avec Louise et pense qu'ils ont raison, ou certains disent que il ne faut pas forcer la nature, c'est ce qu'on entend dans l'argument inverse, et que une femme toute seule ou deux femmes ensemble ne peuvent pas avoir d'enfants, en tout cas la nature le dicte ainsi. Alors est-ce qu'il faut aller contre la nature parce qu'il y a des possibilités médicales, c'est ce que disait Louise, et qu'après tout c'est le progrès scientifique et que ça permet de les aider ou pas?
Oui. Pour moi c'est pas une question d'aller pour ou contre la nature, mais... il me semble que lorsque la femme fait appel à des procédés scientifiques et même technologiques pour pouvoir procréer, il me semble que ça risque, dans certains cas, attention, de mener finalement à une espèce d'industrialisation de la vie où il faudrait payer et puis que du coup ceux qui n'ont pas les moyens n'y auraient pas accès, que après il risquerait d'y avoir des abus aussi, des trafics, des bon voilà, donc ça
si
ouvre.
Encadré par des
après,
médecins,
ça...
les moyens sont modiques, hein, c'est considéré comme une aide médicale.
Oui, mais bien sûr, c'est vrai qu'il y a il faut faire attention à mon avis avec
aux dérives possibles.
Aux dérives possibles parce qu'à mon avis.
Mais tu penses aux dérives alors qu'on n'en est même pas, et enfin il y a beaucoup de femmes je pense qui voudraient avoir des enfants qui peuvent pas, et ça c'est vraiment horrible. Tu n'imagines pas le sentiment, je pense.
Non, mais
Cadet n'est pas une femme.
Il peut se mettre quand même à la place. Merci.
Je pense que c'est pareil pour les hommes, hein, les couples homosexuels.
Bien sûr.
C'est encore plus dur parce qu'une femme, on peut avoir une insémination artificielle, mais un homme n'a pas d'appareil pour développement du bébé.
Oui.
Et tout ça.
Oui. Alors voilà, là aussi, ça risque de créer une espèce de
discrimination entre les hommes et les femmes.
De discrimination entre les homosexuels masculins et féminins, parce que finalement les hommes devraient faire appel à une femme et les femmes pas, donc bon,
ce qui se fait déjà dans certains pays,
ce
là aussi
se fait déjà dans certains pays,
les mères porteuses, vous savez, les ventres alloués, et là par contre il peut y avoir parfois des dérives,
lorsqu'on veut faire la même chose pour les hommes, et ben effectivement là ça peut amener des dérives.
Bah, en tout cas, l'appel des 100 ans de médecins, ça concerne que les femmes.
Oui, au moment où on parle. Oui, mais voilà, mais, justement.
Ça pose aussi après, cette question-là, je suis d'accord.
Bah, oui, c'est vrai que dans l'absolu, si on le fait pour les femmes, après, les hommes risquent de. Pas. Enfin, de réclamer leur part du gâteau.
Alexandre, on peut dire ça comme ça. On parle d'êtres humains, c'est pas tout à fait un gâteau. Mais
oui, non, mais leur part du gâteau.
Le
leur
droit,
part du...
C'est le fameux droit à avoir un enfant, est-ce que c'est
le
un
gâteau,
droit.
Oui, non, du gâteau légal, pardon. C'était pas très heureux comme expression, effectivement.
Alexandre,
je pense que le problème, c'est que ce soit pas légal, que le médecin, il choisisse de donner la vie, de pouvoir donner la vie. Alors que si c'était légal, je pense que ça limiterait beaucoup plus les dérives, comme tu disais, Thiedel. Donc, je pense qu'il faut que ça soit réglementé. C'est pas le problème que ce soit deux femmes ou deux hommes. Mais si deux hommes, c'est impossible. Mais que ça soit deux femmes, c'est pas le souci. Elles sont pas moins compétentes qu'un homme et une femme pour élever un enfant. C'est juste après le souci que ça soit illégal et qu'il puisse y avoir des dérivés qui choisissent la vie ou pas d'un être.
Tu penses que ça devrait être plus encadré par la loi, du coup, et que s'il y a une loi qui passe par rapport à ça, et si on rend ce procédé légal, il y aurait moins de bavures, justement, parce que ça serait bien encadré, ça serait bien dessiné, et bien, il y aurait des règles.
C'est un peu l'argument des médecins qui explique qu'en fait, c'est juste ça, au minimum hypocrite, et que de toute façon... encore une fois, il y a d'autres pays très proches qui le font sans problème, et que voilà, la loi est floue et que c'est déjà fait par eux-mêmes, par certains médecins de toute façon.
Oui, c'est vrai.
Jérémy. Mm-hmm. Ah, là, on nous entend plus du tout. On a été coupé. Peut-être qu'on a énormément débordé. C'est normal qu'on n'entende plus rien.
Non,
pardon. J'ai cru que.
Il y avait de toute façon tout le monde qui le pratiquait, l'avortement, et comme ça, après que ça a été encadré, bah, c'était beaucoup plus sécuritaire.
Et ouais, je voulais juste dire sur, je comprends pas parce qu'on fait beaucoup d'actions comme le mariage gay qui a été autorisé, enfin le mariage homosexuel, oui, pour tous. Et pourtant, enfin dans ces cas-là, si on autorise des actions pour les personnes qui voilà qui sont homosexuelles, et ben faut qu'on aille au bout et qu'on autorise tout ce qui est autorisé aux couples hétérosexuels, aux homosexuels, même si c'est pas autorisé, je sais, là, dans le cadre de ce qu'on est en train de parler.
Souviens-toi des débats qu'il y a eu pour le mariage pour tous.
Ça oui, d'accord, mais
beaucoup,
on est arrivé.
Beaucoup descendent dans
oui.
la rue.
Bah, c'est très bien, on y est arrivé maintenant, je vois pas pourquoi on continue pas.
C'est pas gagné, hein, ça va raviver encore beaucoup de choses. Enfin,
oui, mais c'est une loi qui est passée, donc maintenant, normalement, sauf s'il y a beaucoup de contradictions, mais normalement, elle devrait pas changer, enfin, j'espère.
Tu penses que c'est la logique suite du mariage
totalement.
Pour tous, en fait.
Et je trouve pas ça totalement hors la loi de laisser passer des choses qui sont autorisées pour tous.
Jérémy. Oui. Alors, on termine peut-être avec Noé et le jeune Thiedel.
Moi, je suis juste d'accord avec le fait, évidemment, que ceux qui veulent avoir des enfants, ils aient le droit d'en avoir, parce que c'est quand même un cadeau de la vie, hein, avoir un enfant. J'aimerais bien connaître ça un jour. Mais d'un autre côté, ça fait, comme tu disais, Jérémy, avec l'avortement. Au début, c'était pas légal. C'est devenu légal, donc ça a été encadré. Mais il y a quand même beaucoup de dérives et c'est ça qui me fait peur. Notamment en Chine où des femmes se font avorter parce que bon, c'est un peu différent, hein. C'est complètement différent de la France. Mais je veux dire, c'est pareil, il peut y avoir des trafics, des dérives, des gens peuvent en abuser et donc proposer des prix exorbitants pour pouvoir pour que les femmes avortent. Dans des conditions franchement pas décentes. Et du coup, je suis juste partagé, je suis complètement d'accord pour que ceux qui veulent avoir un enfant aient un enfant. Mais que si ça se fait, il va falloir que ça se fasse dans d'extrêmes bonnes conditions et que ça soit extrêmement surveillé.
D'accord. Alexandre et Thiedel, je vous donne la lourde responsabilité du double mot de la fin.
C'était pour vraiment insister sur ce fait, mais que ce soit l'avortement ou l'insémination, c'est la vie quoi qui est en jeu, c'est la vie d'un être. Donc c'est vraiment ce souci là quoi, que on n'a pas à choisir quoi. Au-delà des dérives financières, c'est les dérives intellectuelles quoi. On n'a pas à choisir de la vie. Donc si deux êtres ont envie d'avoir un enfant, ils puissent l'avoir quoi. C'est juste ça, je voulais juste finir sur ça et pour compléter ce que j'avais dit.
Ce qui, pour les couples hétérosexuels, va de soi. Ils ont envie. Alors, sauf si problème de sérilité, et là on revient encore une fois à la PMA.
Oui.
Jérémy.
C'est normal ce qu'il vient de dire, Alexandre. Et en plus, s'il y a eu des progrès scientifiques, autant en profiter.
Ouais. D'accord.
Pour finir, je ne sais pas, peut-être que Louise va prendre la parole à nouveau après moi. Je voudrais justement rebondir sur ce que Louise disait tout à l'heure, à savoir que la PMA, c'était la suite logique du mariage pour tous.
Oui.
En France, le mariage pour tous en 2012 ou 2013 a été voté à une seule condition, c'est qu'il n'y ait pas de PMA derrière.
Peut-être, mais dans ces cas-là, c'est complètement bête de faire ça.
Moi, je comprends la logique de ça, c'est-à-dire que parler de mariage, c'est quand même pas pareil que de parler de procréation. Le mariage, c'est du papier, effectivement. C'est une procédure administrative, alors que la procréation, ça touche à des choses complètement différentes. Donc voilà, moi je trouve pas que ce soit la suite logique du mariage pour tous.
Ouais, mais je pense que là, mais... si tu vas en parler à des couples homosexuels, ils te diront pas la même chose. Si... Je comprends ce que tu dis, bien sûr, oui. c'est totalement compréhensible, mais je pense qu'il y en a qui souhaiteraient avoir un enfant et s'ils y arrivent pas, c'est horrible.
Tout à fait, tout à fait. Mais simplement, je pense que il faut pas mélanger PMA et mariage pour tous. Maintenant, pour ou contre la PMA,
on aura sûrement l'occasion d'en parler. Cet appel fait parler, la preuve, on est en train de le faire aujourd'hui.
Mais le souci, c'est qu'on parle toujours des choses importantes comme ça à la fin et il reste 10 minutes
pour
en
parler. On vous
laisse
continuer. On gère mieux que ça d'habitude. Aujourd'hui, on a eu en plus plus d'appels que d'habitude, donc on a géré comme on a pu. Vous êtes bien sévère entre Noé qui dit qu'il était frustré. On va conclure parce que je crois qu'il y a des personnes qui attendent le studio, qu'on a un petit peu mobilisé plus longtemps que d'habitude. En plus, on n'était pas une date prévue, donc on remercie Radio Diwa et surtout ceux qui ont la gentillesse d'attendre. Et on va leur laisser la place. Désolé Quentin, mais tant pis, ça va faire un deuxième frustré, mais on va nous mettre à la porte autrement et à juste titre. On se donne rendez-vous à la prochaine émission, donc on revient à la date habituelle, c'est le premier mercredi du mois et c'est le mercredi 4 mai. Ça devrait être la dernière émission de la saison, donc soyez bien présents et bien fidèles pour la dernière de CCC 2015-2016. Le 4 mai à 12h10. Merci à tous, pardon pour ces petits soucis techniques, notamment pour ceux qui nous ont appelés, mais
excusez-nous.
On a géré du mieux qu'on a pu et les techniciens s'excusent avec leur politesse et leur respect habituel. Restez fidèles à l'écoute de Radio Diwa et donc d'autres arrivent dans le studio. Donc d'autres programmes passionnants à écouter sur 107.5. Bonne journée à toutes et à tous.
Merci.
Et à très bientôt pour CCC.
Merci d'avoir écouté. Au revoir.
Salut.
Salut.
Merci, au revoir.